Bonjour à tous. Je vous laisse regarder dans vos Bibles, dans Marc 11, verset 22. Marc 11, verset 22. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira. » Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu des montagnes. Comme le dit Jésus ici, il parle d'une montagne. Bon, c'est quoi une montagne ? Une montagne, on en a tous quelque part. C'est dans nos vies des difficultés, des obstacles, mais pas n'importe quelle difficulté. C'est-à-dire, c'est pas une marche d'escalier, c'est une montagne. C'est énorme. C'est quelque chose qui est dur à traverser. C'est quelque chose qui demande de l'effort, humainement parlant. C'est quelque chose même souvent qui est décourageant, qui semble beaucoup trop grand pour nous, qui semble hors de notre portée. Jésus ici nous encourage à avoir la foi. Il nous dit, même si la montagne est grande, vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez traverser, vous pouvez triompher de cette montagne. Comment ? Juste par la foi, juste en croyant. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Je pense qu'on a tous à peu près des montagnes à traverser dans nos vies. J'aimerais vous encourager qu'en vous, vous avez Jésus. Et Jésus a dit qu'il a triomphé du monde à l'avance. Par conséquent, vous pouvez triompher du monde. Vous pouvez triompher de toutes les montagnes qui se dressent devant vous. Vous avez un esprit triomphant en vous. Et tout ce qu'il peut faire, quelque part, c'est triompher. Il n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'importe la montagne que vous avez en face de vous, vous pouvez triompher. J'aimerais qu'on puisse regarder un peu à Ésaïe 41. Ésaïe 41. On va même commencer à partir du chapitre 9, du verset 9. Tu es mon serviteur. C'est Dieu qui vous parle à vous personnellement. Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Je ne t'ai pas rejeté. Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Même si la montagne est grande, ne sois pas effrayé. Ne crains pas, mais crois seulement, comme dirait Jésus. Car moi, je suis ton Dieu. Moi, je t'affermis. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien. Dans un autre verset, Ésaïe nous dit, « Et je sais que je ne sombrerai jamais dans la honte. » C'est aussi l'une des promesses qu'on retrouve dans les psaumes. Et même aussi plus tard dans le Nouveau Testament, c'est une vraie promesse pour nous. Nous ne serons jamais dans la honte. Nous avons un esprit triomphant. Si nous appuyons sur nous-mêmes, oui, nous pouvons être dans la honte, ça c'est sûr. Mais si on s'appuie sur l'esprit triomphant qui est en nous, nous ne serons jamais dans la honte. Alors j'aimerais vous encourager à être confiant en face des montagnes qui sont devant vous et leur dire, je ne serai pas dans la honte, mais toi montagne, tu vas avoir honte très bientôt. Parce que moi qui suis petit comme ça à côté de toi, je vais te triompher. Bon, c'est pas ce verset que je voulais prendre à la base. On va prendre à partir du verset 14. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël. Alors là, on peut aussi, au lieu de prendre Jacob ou Israël, on peut mettre notre propre prénom. Alors moi, je vais mettre le mien, vous mettez le vôtre. Sois donc sans crainte, vermisseau de Kevin, ô petit Kevin. Car je viens à ton aide, l'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage, tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes et tu les broieras. Tu rentreras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras et le vent les emportera. L'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le Saint d'Israël. Je trouve que ce verset est très très puissant. Voici, je fais de toi un traîneau de battage, tout neuf, armé de pointes. Tu broieras les collines, semblables à de la paille. C'est pas tu casseras la colline ou tu marcheras par-dessus, c'est tu la broieras. Et après, si vous regardez, c'est emporté par le vent. Alors pour qu'une montagne soit emportée par le vent, il ne faut pas que ça se transforme en petit caillou, il faut que ça se transforme vraiment en petite poussière. C'est-à-dire quand Dieu vous dit à vous, vous êtes un traîneau de battage, armé de pointes, tout neuf en plus, il dit. C'est vraiment, il vous voit quelque part dans l'esprit. et il dit « Ouh, celui-là, il est puissant. Celui-là, c'est comme une grosse machine qui dévaste tout sur son passage. » Comment ? Dites-moi, dites-moi. Alors, c'est quoi ?
C'était une planche en bois et il y avait dessous des pointes en fer et donc ça allait sur les céréales.
Ah oui, c'est le machin comme ça là. Ok, cool. Alors, ça
et,
fait comment ?
Et donc, celui qui conduisait le traîneau était debout et il était sur la planche.
Ah, c'est cool ça.
Et la planche est sous. Et donc, sinon pas que c'est la puissance de la machine, parce que nous, on a toute cette vision, parce que ce verset, en fait, m'a été donné par le Seigneur.
Ah oui, dites-moi.
Et donc, c'est très spécifique.
Mais venez le partager. Donc, vous savez plus que moi.
C'était pendant le CDTS, là, c'est le verset que le Seigneur m'a donné, vraiment pour le ministère qui m'a appelé dans la prière. Et donc, j'ai cherché sur Internet ce qu'était un traîneau de battage dans l'Antiquité. Et donc, ma première vision, c'était celle d'une espèce d'énorme moissonneuse batteuse avec les grosses herses et puis le truc qui renverse comme ça. Et Seigneur me semblait me dire, cherche autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. Et en fait, je pourrais vous passer l'image d'ailleurs. C'est donc une planche en bois qui est plus ou moins large et qui était mise derrière les animaux. Il y avait les animaux qui tiraient ça. Et dessous, il y avait des grosses pointes en fer. Et donc, ça passait sur les céréales et ça broyait les céréales, le blé. Quoi. Enfin, ça commençait le battage du blé comme ça aussi. Ça coupait l'herbe et les tiges et ça commençait à légèrement secouer les fruits, quoi. Enfin, les épis. Et donc, le monsieur qui faisait ça, eh ben, il était debout. Et donc, il conduisait comme un char, quoi. Et il avait ses deux pieds sur le traîneau qui était par terre. Ah ouais. Et le Seigneur donc m'a parlé et m'a dit, tu vois, c'est l'humilité. Je dois être sur, sur toi. En fait, je dois être sur toi et toi, tu es en bas. Et moi, je suis élevé, c'est moi qui dirige. Et c'est vraiment une image très forte parce que ça nous aide à replacer dans le contexte aussi de ce que c'était un traîneau à l'époque d'Ésaïe. Voilà.
Merci beaucoup.
Excusez-moi
d'avoir... Non, vraiment, c'est bien. C'est bien. Oui, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment bien. Le fait que c'est Dieu, quelque part, qui nous dirige, c'est Dieu qui nous contrôle, c'est bien. Le fait étant que ce soit une planche ou une grosse machine, ça va quand même battre les montagnes. Donc, quelque part, ça reste dans mon message. Donc, oui, merci beaucoup pour cette précision. C'était super. Alors, du coup, je ne sais plus. Oui, on va passer donc maintenant sur Ésaïe 43. Donc, ces montagnes que nous avons dans nos vies, Jésus, au contrôle de nos vies, va les battre, va les faire ressembler à de la poussière. Et après, il y aura juste besoin d'un petit coup de vent pour les emporter. J'aimerais qu'on puisse lire donc Ésaïe 43, à partir du verset 1. « Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô Kevin, moi je parle pour moi, et qui t'a façonné, ô Kevin, je te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera aucun mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Jésus nous dit aussi que nous avons reçu la puissance de marcher sur toute, la capacité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce que j'aime bien ici, c'est que Dieu, il dit, moi. Il dit, c'est pas toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Il parle quatre fois de lui dans une toute petite phrase. C'est-à-dire, il est là, ton focus, il n'est pas sur toi-même, il n'est pas sur la montagne, il est sur moi. Quand tu as une montagne en face de toi, tu ne regardes pas à ta petitesse, tu ne regardes pas à la grandeur de la montagne, tu regardes à moi simplement. Et moi qui suis au rênes du traîneau de battage, on va battre cette montagne. Et qu'importe la montagne que tu fasses, en plein, il dit, si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Je ne dis pas que vous ne serez pas attaqués, mais je dis que jamais vous serez écrasés jusqu'au bout. Il y a un passage qui dit, je ne me souviens plus vraiment, c'est Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas découragés. Nous sommes abattus, mais pas écrasés. Voilà. Nous sommes attaqués, oui, bien sûr. Mais en nous, nous avons cet esprit triomphant qui est toujours là et qui veut toujours triompher et qui peut toujours triompher. Et dans vos montagnes aujourd'hui, ou dans les jours prochains, je vous encourage à reméditer ces versets afin que vous puissiez vous imprégner de ça et vous dire, en moi, il y a un esprit triomphant, il y a un... Je suis comme un traîneau de battage, donc une planche avec des clous, hein, c'est ça, avec Jésus qui est au règne. C'est vrai que c'est une très belle image. Les montagnes n'ont aucun droit de triompher sur nous, mais nous, nous avons tout le droit en Jésus-Christ de triompher sur les montagnes. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait hier avec les jeunes, on a cassé quelques montagnes, c'était vachement sympa. Donc j'aimerais qu'on puisse avoir un peu quelques témoignages par rapport à hier, parce que c'était quand même vachement sympa. Est-ce que tous les jeunes qui étaient avec moi, vous pouvez venir devant ? Et on peut même les applaudir parce que c'était super, hein, ce qu'ils ont fait. En gros, ce qu'on a fait hier, c'est que donc, ce week-end, c'était une session sur évangélisation. Et hier après-midi, spécialement, on est allé à Paris et on a commencé à évangéliser. Donc, on est allé au jardin du Luxembourg. Et par groupe de deux, on allait voir les gens et on commençait à leur parler. Alors, j'aimerais juste qu'un par un, vous veniez pour donner quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous avez compris durant la journée d'hier. Ça peut être aussi un témoignage de qu'est-ce qui s'est passé, comment Dieu a agi. Donc, je vous laisse venir simplement 2 minutes, très courtement, parce que vous êtes beaucoup, dire quelque chose. Bah, Rémi.
Moi, j'ai compris en fait qu'il fallait, qu'il était important en fait de dire la vérité et de ne pas dire ce que la personne veut entendre, mais de dire la vérité, donc au risque de choquer un peu, voilà, de dire qu'elle est pécheur ou qu'il est pécheur.
Moi, j'ai compris un truc, c'est qu'il fallait oser. Il fallait oser parler de Dieu, même si on n'avait pas forcément envie. Mais il fallait... Parce que Dieu nous a donné un esprit d'assurance, d'autorité. Et voilà, il fallait... Comme il a dit Rémi, pas forcément qu'il soit soulagé d'entendre l'évangile ou que ça lui fasse forcément du bien. Mais que voilà, c'était plus... le message de justice, la justice de Dieu, que s'ils étaient pas, enfin s'ils donnaient pas leur cœur à Jésus, ils étaient en enfer, quoi. Donc c'était ça que j'ai compris. Ouais, ouais.
Jérémy. Moi en fait, ce que j'ai surtout retenu, c'était que, enfin comme ça, quand on fait l'évangélisation dans la rue, il y a des moments où on peut être plus ou moins attaqué, on peut être rejeté par les gens. Mais qu'il fallait quand même garder confiance dans le Seigneur parce qu'il est bon, il nous accorde quand même des bénédictions. Et donc même si on est rejeté, on trouvera toujours des gens qui seront ouverts et réceptifs. Et ça, c'est vraiment une bénédiction, je crois, de la part du Seigneur de pouvoir parler et être écouté. Et après, le Seigneur fait son œuvre dans les cœurs, quoi.
Ouais, moi j'ai appris que il y avait des gens vachement athées, enfin ouais, du coup c'était assez dur de leur parler, enfin non, c'était pas dur, mais c'était surtout dur de pas tomber dans l'argumentation.
Ouais, c'est vrai, la raison qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment très athées, et c'était dur parce qu'il y avait beaucoup d'argumentations comme quoi Dieu il n'existait pas, et c'était dur, enfin on veut abandonner, mais Dieu, il nous relève, tout ça. Et voilà.
Moi, je vais vous raconter le témoignage de ce qui s'est passé avec une dame que j'ai pu rencontrer avec Claire. Donc, en fait, on est parti voir une jeune femme qui était toute seule. Et donc, on a commencé à lui parler de Dieu, à se présenter. Et puis, au bout d'un moment, elle commence à parler d'elle. Donc, elle nous raconte qu'en fait, sa mère l'a abandonnée, que son père était alcoolique, qu'elle a 6 frères et sœurs qui ont été placés dans différentes familles d'accueil. Dans ces familles d'accueil, en fait, elle était placée et elle allait quand même à l'église, mais elle n'avait pas d'accroche, en fait, et ça ne l'intéressait pas. Il y avait comme s'il y avait une cassure. Et puis après, elle a commencé à nous parler de ses différentes tentatives de suicide. En fait. Donc là, ça a été très ému. Et je me suis rappelée de l'image que Samuel nous a dit dimanche dernier.
Oui.
Lorsqu'on marche sur une plage avec des traces de pas et qu'elle peut voir ces traces de pas, mais enfin c'est pas, mais c'est les pas du Seigneur qui la soulève. Et puis après, elle a compris qu'elle n'était pas seule dans ce moment-là et elle était vraiment touchée. Et puis j'ai prié pour elle et enfin elle a prié aussi. Et là, j'étais waouh. Enfin, elle a demandé ce que le Seigneur, enfin qu'elle puisse saisir le Seigneur et enfin. Donc voilà, j'ai donné les coordonnées de l'église, puis enfin, je pense qu'elle va quand même faire des tentatives pour se rapprocher de Dieu. Donc voilà, priez pour Daniel. Donc voilà.
Alors, moi, c'était juste que, en fait, au début, j'avais vraiment du mal à aller vers les gens, en fait. Comment commencer la conversation? J'avais plein de schémas dans ma tête, et puis... Donc j'étais avec Claire au début, donc au début on a prié ensemble pour que voilà que on soit libre d'aller vers les gens et après donc en fait quand on commençait la conversation en fait on voyait qu'il y avait une vraie relation et que ça coulait tout seul en fait et même si les gens n'étaient pas forcément d'accord ou mais voilà il y avait vraiment cette communication et voilà c'était encourageant.
Enfin, moi, je le retiens comme ça. Enfin, j'ai retenu que, enfin, il y a quand même deux catégories. Enfin, ça casse ou ça passe. Mais enfin, il y a quand même, enfin, le résultat, il est très positif parce que quand ça casse, et bah, enfin, ils retiennent quand même, enfin, à la fin, qu'ils sont quand même coupables de leur péché. Mais, enfin, voilà. Donc, en fait, ils savent. Mais, enfin, quand ça passe, et bah, enfin, ils retiennent bien. Et puis, c'est plus facile de parler avec eux. Et puis voilà. Donc voilà.
Et qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que tu m'avais dit?
Ouais, en fait, c'était facile quand même de parler comme ça, enfin des gens. Enfin, c'est quand même dur au début, enfin, tu choisir, enfin, à qui parler, tout ça, enfin, de voir des gens comme ça. Mais en fait, enfin, c'est assez simple quand même. Enfin, puis voilà.
Ouais, super.
J'ai compris que fallait être très confiant et pas timide pour aller parler de Dieu à d'autres personnes, même s'ils croyaient pas en Dieu.
Ben, moi, j'ai compris qu'il fallait persévérer pour pouvoir montrer la vérité aux gens et pour pouvoir leur faire connaître Dieu. Et qu'il fallait vraiment surmonter parfois la peur d'aller parler aux gens. Et qu'il ne fallait pas hésiter vraiment, qu'il fallait vraiment penser qu'à Dieu et qu'aux personnes qui avaient besoin de Dieu.
Ouais. Voilà.
Okay, it's an interesting challenge going out when you don't speak the language.
C'est un vrai défi quand d'aller à l'extérieur parler de Dieu quand on parle pas la langue.
But I just want to. God really taught me something yesterday.
Mais Dieu m'a vraiment appris quelque chose hier.
Of how to depend on Him and listen to Him in different situations.
De dépendre de lui et de l'écouter dans différentes situations.
And just when I was talking to the lady with Joanne.
Et quand je parlais avec la dame, avec Joanne.
Obviously, she was doing the talking because it was in French.
C'est sûr que c'était Joanne qui parlait puisque elle parlait français.
But while she was speaking, I was just praying in the spirit.
Alors qu'elle lui parlait, moi je priais en esprit.
And although I didn't really understand what they were talking about.
Et même si je ne comprenais pas tout à fait ce dont ils parlaient.
I just had like a sense going through me that maybe this lady's tried to commit suicide before.
Et j'avais eu cette sensation que cette femme avait déjà essayé de se suicider avant.
And maybe we'd come at just like the right point.
Et peut-être qu'on était arrivé au bon moment.
And it wasn't till like we finished the conversation.
Et ce n'était qu'à partir vers la fin de la conversation.
Which was sort of half an hour later.
Qui était à peu près une demi-heure plus tard en fait.
That I was talking to Joanne.
Et je parlais avec Joanne.
And then I found out that that's what they've been talking about.
Et j'ai découvert donc c'est ce dont ils avaient parlé, le suicide.
And it just really taught me.
Et ça m'a vraiment appris.
That even though we may not understand, you know, for me with the language.
Donc même si on ne comprend pas, donc pour moi c'était le langage, la langue.
The spirit's still able to show us what's going on.
L'esprit peut nous montrer ce qui se passe.
And so, you know, for me, it's really taught me to actually listen to God.
Donc ça m'a appris à vraiment écouter Dieu.
and depend on him far more.
Et dépendre de lui bien plus.
And that actually, in whatever situations we're in, we can really tune in to what's going on.
Dans n'importe quelle situation, on peut vraiment se connecter à Dieu pour savoir ce qui se passe.
Even if in the natural, we don't understand.
Même si dans le naturel, on ne comprend pas les choses.
Qu'on a peu le temps, on n'est pas pressé. Ce serait bien que quelques-uns donnent quelques exemples concrets aussi, parce qu'on aime bien le concret, hein, comme Johan l'a fait. Alors, je ne sais pas si David ou Jérémy, comment vous avez parlé, quoi, hein, quelle était la réaction des gens, etc. Ce serait bien.
Nous, on a parlé à un catholique, un Mexicain, avec Nyarin. Et puis, au début, c'est vrai qu'il était un peu réticent.
Et comment tu as commencé à lui parler?
Excusez-moi, est-ce que vous avez deux minutes? On a un petit questionnaire à vous faire. En fait, on n'a même pas fait le questionnaire. En fait, on a dit quoi d'abord?
Non, en fait, il se demandait pourquoi on voulait lui parler.
Ah oui.
Dit, ben, à propos de Dieu, est-ce que vous connaissez Dieu? Et puis il a dit ok. Et donc voilà. On s'est assis et.
Puis on a commencé à parler, on lui a demandé s'il avait une relation avec Dieu. S'il aimait Dieu vraiment. Et puis il a dit oui, je vais à l'église tous les dimanches, etc. Et puis il a dit, je connais aussi des gens de GEM, la jeunesse en mission. Il dit, je les trouve dynamiques et tout, vous venez d'où? Puis on a dit, on est protestants évangéliques et tout. Il a dit, ah ouais, c'est trop bien ça. C'est... Chez nous, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, il a dit. Et c'est pour ça que des fois, il va à d'autres réunions. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a pu prier avec lui. Et enfin, on lui a demandé. Puis il a dit oui, bien sûr. Voilà, on a prié courtement et il s'appelle Samuel. Samuel. Voilà.
Voilà. Et vous avez parlé à un autre, non?
On a parlé au début à deux personnes. Bon, c'est vrai que c'était avec Falline. Ils étaient très. Ils faisaient des études en philosophie, en fait. On est un peu mal tombé et puis. En fait, la première question, c'était est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Puis il a dit, bien, qu'est-ce que vous entendez par bien? C'est très... Enfin bref, il a commencé à... C'est vrai qu'il ne fallait pas rentrer dans l'argumentation, parce que après il nous embrouille un peu. Mais,
non, il a accepté la discussion.
Oui, bon, après on a un peu parlé, et puis on a parlé à un autre monsieur un peu plus âgé, qui avait aussi fait des études de philosophie, décidément. Et donc, il a dit qu'il avait étudié, il connaît très très bien la Bible. Et puis il a dit oui, moi je connais plein de versets, cherchez, vous trouverez. Moi j'ai cherché, j'ai trouvé plein de choses, je sais qu'il y a encore à trouver. Puis je lui ai demandé s'il croyait à l'existence de Dieu. Puis il a dit oui, bien sûr. Je me dis que toute cette terre, elle a pas été créée. Enfin, il y a eu un créateur, c'est sûr. Et puis. Voilà, quoi. Il a surtout beaucoup parlé, on l'a surtout beaucoup écouté. Et voilà.
Bah, comme quoi, là, n'est pas. Tous les contacts sont différents.
Ouais.
Quelqu'un d'autre veut donner un petit témoignage? Jérémy? Qu'est-ce que tu as rencontré? Philosophe aussi, toi?
Moi, j'avais rencontré un prof de religion, je pense. Mais en fait, c'était un juif. Donc, mais il était très ouvert. C'est vrai que lui aussi, il avait beaucoup parlé. Donc, enfin, on avait parlé de la Bible, des sacrifices, de l'amour du prochain. Donc oui, c'était assez intéressant. Donc, en fait, lui, bon, comme j'ai dit, c'était un juif. Donc, il reconnaissait Jésus comme un grand prophète, un grand homme ayant des grandes valeurs morales. Bon, après, c'est vrai qu'il ne l'a peut-être pas accepté comme son sauveur. Mais bon, il a dit qu'il attendait un Messie pour la première fois, alors que nous, on l'attendait pour la deuxième fois. Voilà. Bon, après...
C'est tout, t'avais d'autres contacts?
Après, oui, on a eu d'autres contacts. J'étais aussi avec Marina. Donc là, l'homme religieux, c'était avec Xavier. Enfin, religieux, le juif. Hein. Et donc, avec Marina, on avait croisé aussi deux personnes. Là, c'était des personnes un peu plus réticentes. Donc, il y avait une vieille dame, enfin, une dame assez âgée. Donc, lui, qui voulait pas trop nous regarder, en fait. Donc, elle se disait catholique, mais... On dirait qu'elle avait peur en fait de parler de Dieu. On dirait que ça la gênait vraiment. Après, c'était pareil aussi avec un autre, un jeune homme, par contre, cette fois-ci, avec un gros sac de voyage. Sinon, j'étais aussi avec Kevin. Kevin. Et là, on avait croisé un couple, un jeune couple d'Allemands, donc qui était apparemment en recherche, qui se considéraient comme des gens pas trop mauvais, mais qui pouvaient encore faire mieux. Mais après, donc, Kevin leur a demandé s'ils voulaient donner leur vie à Jésus. Et là, c'était assez mitigé. Enfin, il disait qu'il devait encore réfléchir, plus ou moins. Et sinon, on avait croisé encore un autre monsieur avec une barbe blanche. Et il se disait africain, en fait, mais... Bon, là, il était un peu plus farfelu, en fait. Parce que, bon... Je sais pas, il était farfelu, oui. Il faut que c'est le terme. Assez bizarre, bon. Mais il était ouvert, enfin, il parlait aussi assez bien, mais... Bon, apparemment, il a eu pas mal de problèmes dans sa vie aussi, donc on a essayé de lui parler de Dieu, mais il disait que, qu'en tant que blanc, on pouvait pas comprendre la religion. Bon on se pose... C'était un peu bizarre. Mais bon, après, on a planté, quoi, et puis Dieu fera le reste.
D'accord. Ah, il faut s'attendre à tout. Taline, tu as eu un petit contact?
Moi je suis allée voir donc avec David, donc vous connaissez déjà l'histoire et après je suis allée avec Marina et Rémi et ouais, donc on est tombé sur une personne donc hyper ratée, enfin qui croyait pas du tout en Dieu, et du coup on avait enfin chaque fois qu'on disait un truc sur Dieu, elle nous contrait tout de suite voilà et Bah c'est, je sais pas, après c'est Rémi qui parlait parce que moi j'avais plus quoi dire. Et et sinon on est tombé sur une autre personne après aussi athée, et on lui a parlé, ouais on avait parlé comme ça, mais en fait lui aussi, enfin il disait juste oui, enfin sans plus, il parlait pas vraiment de sa vie et tout. Et après, on rencontrait aussi un Africain, mais il était déjà chrétien, du coup, là.
Quelqu'un d'autre?
Avec Joanne, on avait une fille qui s'appelait, enfin une dame qui s'appelait Maud. Elle était vraiment très très douce et elle avait des connaissances avec le Christ, parce qu'elle avait beaucoup d'amis chrétiens. Mais elle était pas, elle croyait en un Dieu, et mais elle pratiquait pas vraiment, mais on voyait vraiment qu'elle voulait vraiment rechercher. Et puis Joanne, elle lui a passé son numéro et c'était cool.
Rémi?
Moi, ce serait pas très très encourageant, mais enfin.
Ah bah, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. Toi, tu étais encouragé.
Oui, c'est clair. Ça encourage, même si vous tombez sur le pire des athées. Enfin, de toute façon, ça encourage, ça édifie de parler de Dieu. On s'est adressé à un moment à une personne qui lisait donc un livre sur la théorie de l'évolution. C'était un philosophe. Et puis même une personne beaucoup plus simple, je dirais, qui te fait un grand sourire et tout, mais en fait qui t'écoute et qui a en fait une condescendance. Enfin, elle te laisse parler, voilà, elle laisse parler Faliana, voilà, et après elle fait un grand sourire, et on lui dit, est-ce que vous savez, vous êtes pêcheur? Oui, peut-être, et avec une grosse ironie. Et c'est vrai que... Bon, on a remarqué vraiment la différence entre les Français et les gens, les Africains par exemple. Les Africains sont bien plus ouverts que le, je dirais, le Français parisien. Et c'est un peu triste quand même de voir que ils t'écoutent plus ou moins, mais de toute façon, il y a une fermeture et peut-être que on peut particulièrement aussi prier, pour les personnes d'origine étrangère qui s'installent en France. Parce que ça peut être que bénéfique pour la France, pour les Français aussi. Voilà.
Moi, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Georges. Il venait de La Réunion, il était là pour passer des examens à Paris. Et donc c'est moi, j'étais en recherche de quelqu'un qui avait rien à faire et ils étaient tous occupés à faire quelque chose. Et à un moment, je vois cet homme assis sur un banc comme ça en regardant en l'air. Donc je suis allé droit vers lui, j'étais super content d'avoir trouvé quelqu'un qui avait rien à faire. Donc je lui ai dit bonjour, je m'appelle Kevin. Comme ça, il commence à me serrer la main, il me regarde un peu bizarre, un peu effrayé. Je commence à lui parler, je dis mais pourquoi tu viens me parler comme ça? Je dis, pas parce que j'ai des trucs à vous dire, parce que je dois vous parler de choses. Il me dit, mais c'est marrant parce que... Enfin, de quoi tu veux me parler? Alors moi, je dis, je vous parlais de Dieu. Il me dit, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, en sortant de mon appart, j'ai eu une grande conviction, je pense que c'est Dieu qui m'a dit d'aller au parc et d'attendre quelqu'un va me parler. Donc à partir de ce moment-là, je suis resté une heure avec lui, en fait.
Plus?
Non, c'était très intéressant. J'ai pu vraiment lui donner tout l'évangile. Il était déjà catholique, mais alors je lui ai fait vraiment comprendre qu'il n'avait pas d'autre, enfin que devant Dieu, il était pécheur quelque part et qu'il devait vraiment donner toute sa vie à Jésus. Et puis c'est vrai qu'à la fin, il était vraiment convaincu. Il a vraiment fait un chemin. À la fin, il me disait de répéter que Jésus est son Sauveur et son Seigneur si vraiment il le croit. Il était là, Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Après, il m'a parlé de tous ces problèmes de sorcellerie, vaudou, machin, qu'il y a des gens qui essaient de l'attaquer, bon, c'est un peu bizarre. On a aussi prié pour ça. On a eu des très, très, très bons moments. Une heure vraiment, vraiment, vraiment super, très spéciale. Donc moi, j'étais vraiment encouragé, parce que j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Quelqu'un qui avait reçu de Dieu, qui devait attendre, c'est extraordinaire. Voilà. Enfin, je pense qu'on a tous été encouragés. Ouais. Et merci en tout cas à vous tous, et puis continuez à évangéliser. Hein. Allez. J'aimerais juste un petit peu parler de l'évangile, de la façon dont on a d'apporter l'évangile, parce que c'est vrai que c'est important. Ce qu'on a fait en fait hier, c'est qu'on n'allait pas vers les gens leur prêcher l'évangile de l'amour, l'évangile du bonheur. On leur disait pas acceptez Jésus dans vos vies, vous allez avoir la paix, la joie, ceci, cela. On leur disait que... ils nous disaient en fait qu'ils étaient pécheurs, on leur posait des questions, est-ce que vous avez déjà menti? Alors ils nous disent oui, bon, qu'est-ce que ça fait de vous? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà volé? Non. Bon, on a déjà établi que vous étiez un menteur, monsieur. Maintenant, on peut avancer, s'il vous plaît. On dit, est-ce que vous avez déjà téléchargé? Ah, oui. Qu'est-ce que ça fait de vous? Un voleur. Avec des questions comme ça, nous, on ne les condamnait pas, on ne leur disait pas qu'ils étaient pécheurs. Mais eux, ils en prenaient conscience qu'ils étaient pécheurs. Et on leur disait, devant Dieu, quand vous mourrez devant Dieu, vous allez passer devant Dieu. Et lui va vous juger selon sa loi à lui, selon sa sainteté à lui. Pensez-vous que vous serez coupable ou innocent? Alors là, les gens, ils réfléchissent. Et à la lumière, en fait, de ce qu'on a dit avant, ils disent, coupable. Alors on leur dit, du coup, vous allez aller en enfer ou au paradis? Alors là, les gens, ça leur pose un sérieux problème. La plupart du temps, ils répondent, le paradis. Alors, on leur demande pourquoi? Parce que je pense que Dieu est bon, je pense que Dieu est juste, enfin, il va me pardonner, tout ça. Alors je dis, Dieu, il va laisser donc tous les menteurs, les voleurs, les meurtriers, tout le monde au paradis. On ira tous au paradis. Et là, il nous regarde et il fait, non. Donc, vous allez aller où? En enfer. Elle dit, est-ce que ça vous pose un problème? Et alors souvent, les gens, ils ne voulaient pas prendre conscience quelque part de leur propre condamnation, ils essayaient de s'échapper. Et c'est vrai que tout le jeu quelque part qu'on a eu à faire, c'était à chaque fois les ramener quelque part un peu dans la condamnation. Et une fois qu'ils étaient vraiment convaincus d'être pécheurs, d'être condamnés, là on leur parlait de Jésus, là on leur parlait de la grâce. Parce que le truc, c'est que moi j'ai remarqué que lorsqu'on donne la bonne nouvelle du premier coup, les gens ils comprennent pas. Si je vous dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je viens de payer 100 000 euros pour vous. Alors vous me direz, super, c'est sympa, mais moi ça ne change rien à ma vie du coup, tu l'as déjà payé, ça. Et puis ça n'a pas de sens parce que je ne suis pas endetté, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs la Bible dit, c'est pareil pour l'évangile, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. C'est pour ça qu'il faut les amener d'abord à la compréhension de la justice de Dieu. Donc, il faut leur donner la mauvaise nouvelle avant la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont pécheurs et que sous la justice de Dieu, ils ne passent pas. Ils vont en enfer. À partir du moment, on n'est pas là pour les condamner. De toute façon, ils sont déjà condamnés. mais on est là juste pour leur faire comprendre, pour leur faire, enfin, qu'ils prennent la révélation qu'ils sont pécheurs. Et une fois qu'ils ont la compréhension de la mauvaise nouvelle, là, on leur donne la bonne nouvelle. Et là, ça prend sens. C'est comme dans un avion, si on dit à quelqu'un, bon, bah, prenez un parachute, ça va améliorer le confort de votre vol. Il me dit, bon, bah, je peux essayer. Il va prendre le parachute. Il dit, ah bah non, ça améliore pas du tout le confort du vol. C'est pas agréable et tout. Il y a les gens qui se moquent de moi. Il va enlever le parachute. C'est pareil avec Jésus. Si on leur dit, bah, accepte Jésus dans ta vie, ça va te donner la joie, le bonheur, le machin. Ça va remplir le vide qu'il y a dans ton cœur. Il dit, bon, bah, pourquoi pas essayer. Ils vont se mettre à croire en Jésus. Et là, autour d'eux, il va y avoir des moqueries. Il va avoir exactement ce que Jésus a dit quand il a dit, le monde vous haïra comme il m'a haï. Et là, ils vont dire, ah bah, on m'a menti, ça n'améliore pas le confort de la vie. Alors que si on arrive, on dit à quelqu'un, bon, l'avion va se crasher, on ne sait pas trop quand, je vous propose un parachute. Sans parachute, vous mourrez. Si vous avez un parachute, vous pouvez rester en vie. La personne va prendre le parachute, va bien sangler, tout, il va le garder, même si les gens se moquent, il va le garder, même si ce n'est pas confortable, il va le garder. Parce qu'il aura en tête lorsqu'il aura à sauter de l'avion. Et avec Jésus, c'est pareil. Et là, il aura la paix, la joie, parce qu'il saura qu'il va rester en vie, en fait. Il saura qu'il sera sauvé, donc il aura la paix, la joie, le vide dans son cœur rempli. Le truc, c'est qu'il ne faut pas prêcher ça, il faut prêcher la justice de Dieu, la mauvaise nouvelle, et après, la bonne nouvelle. C'est sous la compréhension qu'il doit sauter dans le vide qu'il va accepter le parachute. Si on lui parle juste du parachute, il ne va pas comprendre. Le parachute, en fait, c'est Jésus. Voilà. Voilà, donc je vais aussi vous encourager à sortir aussi comme ça, à pouvoir parler aussi à vos amis, leur faire comprendre la mauvaise nouvelle, afin qu'ils puissent accepter la bonne nouvelle. Voilà.